France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Nous sommes le samedi 5 octobre, soyez les bienvenus sur France Musique. Laurent Lefrançois est à la réalisation, André Guélil et Ludovic Auger à la technique. Bienvenue dans cette émission que nous consacrons aux pratiques amateurs, au chant choral, à la pédagogie et au plaisir de la musique. Le menu du jour le voici. À 8h, Christophe Chasson nous apprendra à travailler une partition de Mozart. À ses côtés, un trio de jeunes flûtistes, le trio formidable. À 8h15, le ténor Stanislas de Barbérac évoquera ses premiers pas de musicien. Et puis notre reportage avec cette question, faut-il qu'un enfant ait l'oreille musicale pour apprendre et faire des progrès? Marie Gicquel nous dira tout à 8h20. Dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupont nous parlera du cœur Accentus, ce sera à 8h30. Notre invité sera Philippe Leclan, il est directeur musical du festival Musiques Anciennes en Pic-Saint-Loup. Enfin, Roselyne Bachelot rendra hommage à Jesse Norman en toute fin d'émission. La sonate en Do majeur opus 4 numéro 1, sonate en trio, c'est-à-dire deux voix mélodiques accompagnées par une basse continue. Fort musical apparu au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle et dont ici l'auteur Arcangelo Corelli était un maître du genre. C'était un extrait du tout nouveau disque du Consort, paru il y a quelques semaines sous le label Alpha, Consort emmené par le claveciniste Justin Taylor, qui sera lui en concert le 11 octobre prochain. Ce sera au Grand Théâtre de Tours à l'occasion du Gala Mozart donné en compagnie du Concert de la Loge et de Julien Chauvin. 7h38, un petit mot sur la pop, cette péniche culturelle amarrée au 61 quai de la Seine à Paris. Lieu d'hybridation, d'expérimentation, qui interroge la place des sons et de la musique dans la société. Bien, un cycle de relecture d'œuvres musicales s'ouvre aujourd'hui. 8 équipes constituées de comédiens, musiciens, metteurs en scène, chorégraphes, donnent leur interprétation scénique de musique d'époque différente. Et bien, tout à l'heure à 17h, à la pop, c'est l'œuvre de Barbara Strozzi, compositrice vénitienne, qui sera revisitée par les comédiennes Lena Pogam et Elena de Laurence. Le 19 octobre prochain, toujours à 17h, c'est la fameuse Danse des Chevaliers de Sergueï Prokofiev qui passera au grill de 4 artistes. Cela se passe donc à la Péniche Pop. Allez-y, soyez curieux.
Thank you.
La danse des chevaliers, extrait de Roméo et Juliette de Sergueï Prokofiev. Nous écoutions Pavoyervi à la direction de l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Je vous propose ce matin de gagner sur France Musique des places pour le concert, pour le festival plutôt, aux Armes Contemporains. Deuxième édition pour ce festival dédié à la création musicale qui se déroule à la Scala à Paris. 4 concerts, 7 créations mondiales, 41 musiciens qui se réuniront à cette occasion. Je vous offre des places plus précisément pour le concert que donnera David Cadouche dans le cadre de ce festival aux Armes Contemporains. Ce sera le vendredi 11 octobre à 19h à la Scala à Paris. Rendez-vous sur francemusique.fr sur la page de l'émission Musique Matin. Vous nous donnez vos coordonnées et puis la bonne réponse à la question qui va suivre et vous recevrez peut-être 2 places dans votre boîte aux lettres d'ici quelques jours. Alors ce matin, je vous propose de deviner le métier de David Cadouche. Oh là, c'est tellement facile. 3 propositions. Est-il vibraphoniste, batteur ou alors pianiste? Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous.
Thank you.
Feu d'artifice, un extrait du deuxième livre des Préludes de Claude Debussy, interprété ici par David Cadouche, un extrait de son tout nouveau disque Révolution, paru chez Mirare en partenariat avec France Musique. Et je vous rappelle que je vous offre des places pour le concert que ce musicien donnera le vendredi 11 octobre prochain à 19h à la Scala Paris, dans le cadre du festival Aux Armes Contemporains, qui se tiendra les 11 et 12 octobre prochains dans cette salle. Ce matin, je vous rappelle que je vous proposais de deviner le métier de David Cadouche que nous écoutions à l'instant. Est-il vibraphoniste, batteur ou pianiste? Votre réponse sur francemusique.fr, bien sûr. Thank you. Le deuxième mouvement de la sonate pour violoncelle et piano de Sergueï Prokofiev, un extrait du nouveau disque du violoncelliste Bruno Philippe, ici en duo avec Tanguy de Vihancourt. Disque dont la sortie officielle est prévue le 18 octobre prochain chez Harmonia Mundi, en partenariat avec France Musique. Disque consacré au compositeur Prokofiev. Au-delà de cette sonate, vous pourrez également y entendre la grande symphonie concertante de Bruno Philippe, accompagnée par l'orchestre de la radio de Francfort, dirigée par Christophe Eschenbach. À noter ce concert de sortie, ce sera jeudi prochain, le 10 octobre, salle Cortot à Paris. Concert de musique de chambre, Bruno Philippe aux côtés du pianiste Tanguy de Vihancourt, avec au programme cette sonate qu'on écoutait à l'instant, Prokofiev, mais aussi Schumann, Beethoven et Debussy. Le concert est à 20h. 7h54, chaque semaine je sélectionne pour vous un livre-disque, une bande dessinée, un livre-disque pour faire découvrir la musique classique aux enfants. Et bien aujourd'hui j'ai jeté mon dévolu sur Gisèle, ballet d'Adolphe Adam, un livre-disque qui paraît chez Didier Jeunesse. L'histoire est contée par une voix qu'on connaît bien sur France Musique, celle de Nathalie Dessay. Le texte est de Pierre Coran, les 12 illustrations sont d'Olivier Deveau. Et nous pouvons y entendre les plus grands airs du ballet composés par Adolphe Adam et joués par l'Orchestre Symphonique de Londres, s'il vous plaît. En voici les toutes premières pages.
Gisèle. Il y a longtemps, très longtemps. Dans une vallée de Germanie, riche en vignes et en châteaux, vivait une paysanne prénommée Gisèle. Avec Berthe, sa mère, elle habitait une jolie chaumière à flanc de colline. L'une des maisons voisines était occupée par Hilarion, un garde-chasse, et l'autre, depuis peu, par un villageois qui se faisait appeler Loïs. Hilarion et Loïs aimaient tous deux Gisèle. Et dès lors, ils se détestaient. Un jour, Hilarion surprend une étrange conversation entre son voisin et un écuyer du château.
« Abandonnez votre projet amoureux, monseigneur. Des ennuis vous attendent. Votre monde n'est pas celui de cette villageoise, si jolie soit-elle. » S'écrie Loïs agacé. Va, c'est un ordre.
Hilarion n'en croit ni ses yeux ni ses oreilles. Pourquoi un noble écuyer appelle-t-il Loïs monseigneur? Et pourquoi lui semble-t-il tout dévoué? Quel secret son rival essaye-t-il de cacher?
Eh bien, vous le saurez en feuilletant ce livre-disque Gisèle qui paraît chez Didier Jeunesse, histoire racontée par Nathalie Dessay. On écoutait également l'Orchestre Symphonique de Londres, Gisèle, ballet d'Adolphe Adam. Livre-disque donc que vous pouvez bien feuilleter, offrir aux plus jeunes qui nous écoutent ce matin.
Lundi 7 octobre, France Musique vous offre le Metropolitan Opera à la radio à l'occasion du lancement de la saison Pathé Live au cinéma associé à France Musique. De 7h à 22h30, retrouvez Peter Gelb, directeur général de la célèbre institution new-yorkaise. Découvrez les grandes heures du Met dans Relax et une soirée de concert réunissant de flamboyantes archives de la salle d'opéra new-yorkaise. Lundi, le Metropolitan Opera s'invite sur France Musique et francemusique.fr.
Viva l'Orchestra. Participez à l'orchestre et au cœur des grands amateurs de Radio France. Pour la première fois, Viva l'Orchestra ouvre ses portes aux chanteurs comme aux instrumentistes pour tous de 7 à 97 ans. Avec l'Orchestre National de France et le cœur de Radio France, préparez-vous à jouer et à chanter sur la scène de l'Auditorium de Radio France. Inscrivez-vous entre le 2 septembre et le 13 octobre sur maisondelaradio.fr. Viva l'Orchestra.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
Chère auditrice, chère auditeur. Chère auditrice, chère auditeur.
Il est 8h sur France Musique, c'est l'heure de retrouver Christophe Chassol. Bonjour Christophe.
Bonjour Saskia.
Et puis dans cette chronique, évidemment, vous n'êtes pas seul. Alors, nouveau mois, nouveaux invités. Mm-hmm. Nous avons le plaisir d'accueillir le trio formidable Dounia, Rim et Quentin. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors, vous avez tous les trois 12 ans. Vous avez commencé la flûte il y a 5 ans, très exactement. Vous étudiez au Conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers-la-Courneuve. Et c'est votre professeur Sophie Déa qui a posé votre candidature. Je crois que vous n'étiez même pas au courant au départ, mais c'est bon, ils sont là, ils sont avec nous. Et ils vont nous accompagner tout le mois d'octobre, donc, dans cette chronique. Christophe, on va suivre votre leçon ce matin. Que va-t-on
une leçon
apprendre aujourd'hui?
C'est pas tant une leçon qu'un moment partagé avec trois jeunes flûtistes. Moi, qui je suis vraiment un fan de flûte, c'est mon instrument préféré après le piano. Voilà, j'ai des choses à leur montrer, à leur dire sur la flûte, pas sur la flûte, sur la musique en général, mais il se trouve qu'ils sont flûtistes et que j'adore ça. Donc,
on va en profiter. Ça me je crois que Mozart est au programme aujourd'hui.
Eh bien oui, ils ont. Vous avez un trio, c'est un petit allegro de Mozart que vous jouez. On va essayer de regarder déjà comment lire une partition, comment lire cette partition, comment travailler, et puis on va voir ce que ça donne si on réharmonise peut-être le morceau. Donc on essaye. Vraiment c'est vachement bien. Moi, ce que je voulais vous dire comme technique pour travailler, c'est de travailler toujours la même mesure. Moi, mon père, il me faisait travailler en me faisant travailler une mesure par mesure et de les répéter 10 fois de suite sans se tromper. Si je me trompais à la 9e fois, fallait que je recommence. Et alors, je devais travailler avec la note d'enchaînement. Donc là, on va travailler les 4 premières mesures qui font fa ré si la do si fa fa sol sol la. On va essayer de faire tourner cette mesure comme une boucle. Et vous allez essayer de rentrer dedans vraiment comme dans une transe, quoi. Allez, on va essayer. Fa sol sol la la si, fa ré si. Fa sol sol la la si. Encore. Ok, est-ce qu'on peut essayer de la faire vraiment plus lentement? Parce que j'ai remarqué que quand on travaille quelque chose très 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 lentement, avec une extrême lenteur, on peut ensuite la jouer à toutes les vitesses. On va essayer à ce tempo-là. Do, si, fa, fa, sol, sol, la, la, si. Ha ha ha. C'est beau, c'est beau. Bon, alors l'idée de tout ça, moi, c'est que quand vous travaillez quelque chose de vraiment très... que vous travaillez toujours les mêmes quatre mesures comme ça, vraiment à l'envi, sans vous arrêter, vraiment de les répéter plein de fois, ça rentre dans votre corps. Pour moi, c'est, ça rentre dans le corps. La mélodie s'inscrit, elle s'inscrit dans votre tête. Bon, et moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était cette histoire de quand on lit une partition, de peut-être de la comparer à un paysage ou un gros arbre, en fait. Je pense à la verticale et à l'horizontale, et c'est-à-dire que les flûtes, moi, je les vois tout en haut. C'est vraiment l'instrument le plus haut de l'orchestre. Le piccolo, qui est le plus petit instrument de l'orchestre, lui, il peut couvrir tout le monde, quoi. C'est quand même dingue. C'est le plus petit. Le plus petit, il peut couvrir les timpanis, quand même. Donc, vous avez une grosse responsabilité en tant que flûtiste. Vous êtes tout en haut de la chaîne, tout en haut de la partition. Et c'est un chemin qu'elle fait comme un oiseau au-dessus des arbres. Et puis, en dessous de l'arbre, c'est les racines. Et c'est, en effet, la basse. Dunia, tu dorais. Et puis Quentin, ta responsabilité en haut, et puis Rime, toi au-dessus, tu dois mettre la glu, la chair, tu vois tout ce qu'il y a dans le tronc de l'arbre, c'est toi qui va donner en fait la couleur, quoi, l'accord, des accords en fait. Allez, on le joue ensemble. Je vais jouer en dessous les accords et tout.
1, 2, 3, 4.
Fa, là, lentement alors, on y va lentement. 3, 4.
Je vais l'avoir en tête toute la journée grâce à vous, à vous quatre.
Ouais, c'est le but. Hein.
Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Quentin, Dounia et Rime. Et on vous retrouve tous les quatre la semaine prochaine, bien sûr. Bonne semaine.
Merci. Merci.
Salut. Thank you.
L'Orchestre National de Jazz, ici, dans cette valse de Franck Tortelier, l'Orchestre National de Jazz qui lance à sa nouvelle saison de l'Orchestre des Jeunes de l'Orchestre National des Jazz, dispositif inédit à destination des étudiants européens. Cette saison, eh bien, elle sera dédiée aux trois programmes phares, entre un hommage à Led Zeppelin, un répertoire inspiré du jazz rock des années 70, et puis des valses du monde entier. Vous pouvez postuler si vous souhaitez intégrer cet Orchestre des Jeunes de l'ONJ. La date limite des candidatures est fixée au 13 octobre.
1, 2, 3.
Tu vois, toi, t'as de la chance de faire de la musique. Pourquoi n'en fais pas ?
Et dans cette émission, nous nous intéressons au chant choral. Ça, ce sera d'ici 20 petites minutes avec Marc-Olivier Dupin. Nous nous intéressons à la pédagogie, à la transmission, aux pratiques amateurs. Ces amateurs qui jouent pour leur propre plaisir. C'est d'ailleurs par là que tout a commencé pour les musiciens professionnels, bien sûr. Et ce matin, j'ai demandé au ténor Stanislas de Barbérac de nous raconter ses débuts et l'impact de la musique sur sa vie.
La musique me procure un équilibre, je crois. Parce que je me demande parfois, si j'arrêtais la musique, qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie ? C'est une grande question. Et en fait, je ne me pose plus la question parce que j'ai besoin de musique pour apprécier ma vie de tous les jours, pour apprécier ma vie de famille, etc. C'est vraiment un équilibre pour moi, la musique. Alors, mon tout premier cours de musique, c'était à l'âge de 8 ans, parce que j'ai intégré la maîtrise des petits chanteurs de Bordeaux quand je me suis installé à Bordeaux avec ma famille, qui était dans l'établissement scolaire où j'étais. Et donc, j'avais plein de copains qui m'ont dit « Viens, c'est sympa, on a une chorale et tout. » Et en fait, j'ai beaucoup aimé, j'avais pas du tout cette culture-là. Premier cours, voilà, on est en randonnion, et puis on dit « Fais des sons. » Et puis j'ai découvert que j'avais une voix, en fait, que j'avais un truc à dire. Et même à l'âge de 8 ans, j'ai encore ce souvenir d'être tout seul devant le maître qui me disait « Vas-y, chante quelque chose. » Et voilà, faire des vocalises. C'était mon premier contact avec la musique. En fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont marqué dans mon parcours musical, parce que j'ai chanté donc petit. Il y a eu donc le directeur du chœur, Patrick Gély, puis ensuite Philippe Martin, puisqu'il y a eu deux chefs de chœur successifs, parce que je suis resté quand même plus de 10 ans, 12 ans. Et il y a eu ces deux personnes, Philippe Martin qui est d'ailleurs témoin de mon mariage, donc c'est quelqu'un qui importe pour moi. Et ensuite, il y a bien sûr Lionel Sarrazin, mon professeur de chant, mais que j'ai connu plus tard quand j'ai commencé le chant à proprement parler lyrique, qui n'a rien à voir à ce que j'ai fait pendant toutes ces années de musique, et qui me suit toujours. Et voilà, un professeur de chant dans le milieu de l'opéra, c'est quelqu'un d'important. Donc je dirais qu'aujourd'hui, Lionel Sarrazin compte beaucoup dans ma vie, parce que c'est un ami aussi. Et puis c'est quelqu'un à qui je confie beaucoup de choses sur mes choix de carrière. Et puis les choix de carrière ont des conséquences sur les choix de vie privée aussi. Donc voilà, c'est une personne importante. Le plus difficile dans l'apprentissage de la musique, c'est de s'y mettre, parce que souvent on est pris un peu dans une spirale où on fait des rôles, mais il faut apprendre des nouveaux rôles aussi. Et voilà, c'est compliqué de se dire, voilà, j'ai des spectacles, des répétitions, le soir il faut que je rentre, je fais un autre répertoire, une autre langue, voilà, donc il y a tout le travail à la table, ça c'est difficile. D'avoir l'énergie pour se dire, bon, il faut que je passe 2 heures à traduire tout mon texte, à comprendre la musique de la langue, voir des coachs en dehors du temps de travail, donc ça c'est de plus en plus difficile, je dirais. Alors le conseil que je pourrais donner à des jeunes chanteurs... qui démarre la musique. En tout cas, ce qui m'a toujours guidé et que mon professeur de chant m'a dit quand on a commencé le chant lyrique tous les deux, c'est de rêver, mais de ne pas fantasmer. Et je trouvais que c'était très juste. J'ai mis beaucoup de temps à apprivoiser le concept, mais c'est vrai qu'il y a une nuance entre le fantasme d'une carrière ou de rôle que l'on veut faire, et la réalité. Mais la réalité n'empêche pas de rêver, de se dire, tiens, j'aimerais chanter, je sais pas où, un jour au Covent Garden. C'est différent, parce que le rêve, il y a quand même un souvenir, souvent. Le fantasme, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait pour moi. Et ça m'a toujours assez guidé, ça.
Yeah.
Ganymède de Franz Schubert, orchestré ici par Richard Strauss. Nous écoutions cette voix. Stanislas de Barberac, accompagné par l'Insula Orchestra, dirigé par Laurence Equilbet. Il est 8h18.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et c'est l'heure de notre reportage. Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Saskia.
Expérience traumatisante en CM1. Prof de musique passe dans la classe pour faire un peu la promo de la chorale. Donc on commence, c'était l'époque d'Emily Jolie, du coup la deuxième version d'Emily Jolie avec Johnny Hallyday et tout le gratin de la musique française. On commence à chanter et puis au bout de 5-10 minutes, grand stop, et le prof de chant monte du doigt trois personnes, toc toc toc, y compris moi, et nous dit bon bah vous trois vous pouvez retourner en classe. La grosse désillusion. Je suis persuadé que je chante faux, ouais. Mais je m'en rendais pas compte à l'époque. Personne m'avait dit. Si les gens me disaient quand t'es jeune, toi tu chantes bien, toi tu chantes mal, ça permettrait d'éviter des moments d'embarras comme ça.
Et aujourd'hui, on te l'a dit ?
Que je chante faux ? Alors ma copine, tous les jours, ouais. À chaque fois que je chante, elle me dit que je massacre les chansons.
Un témoignage encore ému pour évoquer cette faiblesse qui toucherait 5% des Français. Mais la voix disharmonieuse n'est pas une fatalité, Marie. Quand la voix déraille, comment la remettre sur le droit chemin ? Cela commence par l'éducation de l'oreille.
Et oui, si vous voulez que votre enfant ait toutes les chances de son côté, il va falloir s'y prendre tôt, comme nous le confie le neurologue Bernard Le Chevalier. Il est aussi organiste et vient de publier « Le plaisir de la musique » aux éditions Odile Jacob.
Un équipement, si vous voulez, déjà auditif chez le fœtus à partir de la 25e semaine.
Donc si on veut par exemple que notre enfant, il ait l'oreille musicale...
Oui. Eh bien, il faut que la maman l'emmène au concert. Alors moi, j'en ai l'expérience parce que mon fils, qui a l'oreille absolue, nous sommes allés à des concerts avec ma femme là, qui était enceinte, et elle disait, mais qu'est-ce qu'il a ? Je sens qu'il bouge.
Bon, et si vos parents ont raté le coche, pas de panique, tout n'est pas fichu.
Commençons par les cris, les faire crier, ensuite les faire crier sur des tonalités musicales, ensuite prendre les octaves et ensuite écouter les autres qui chantent bien et puis les reproduire. Parce que le cerveau de l'enfant est doué de plasticité cérébrale et c'est beaucoup plus facile chez les enfants que chez les adultes.
Revenons à notre traumatisé du début, Saskia, et plaçons-le entre les mains bienveillantes de Chantal Santon-Jeffrey. Elle est chanteuse d'opéra, mais aussi professeure. Première étape pour rectifier la justesse, passer par la case solfège.
En solfège, on travaille l'oreille musicale, l'écoute, la reproduction juste des notes. C'est vraiment technique pour le coup, donc c'est un peu injuste de virer quelqu'un comme ça. Il faut le faire travailler. Il y a un travail technique à faire avec un enfant, vocal, qui est assez particulier. En gros, c'est de respecter sa voix, le naturel de sa voix, le naturel de l'émission. Mais il faut attendre que l'enfant soit adulte pour vraiment travailler sa technique.
Alors, comme n'importe quel instrument, la voix se travaille. On y va progressivement. Ne vous lancez pas dans l'interprétation de l'air de La Reine de la Nuit de Mozart. Saskia, je vous vois grimacer, mais vous aurez reconnu.
Ça fait un petit peu mal. Florence Foster Jenkins, évidemment, qui a inspiré le personnage du film Marguerite de Xavier Giannoli, d'ailleurs.
Et ne vous essayez pas non plus à du Wagner ou même du Balavoine.
J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. J'ai mal dans ma peau.
Mais c'est pas si mal.
Mais oui, ça, finalement, ça allait. C'était notre exclu de la chorale du début de ce reportage. Bon, allez, un petit coup de pouce signé Chantal Santon-Jeffrey.
Vous voulez la formule magique? La formule magique de la justesse. Travail de souffle, comme si vous avez déjà fait du yoga, on va travailler allongé sur son souffle, des exercices d'expiration, d'inspiration, d'appréhension du corps, des muscles qui vont fabriquer en fait ce qu'on appelle dans le jargon le soutien, qui vont faire qu'on va pouvoir donc faire de la pression sous les cordes vocales et donc projeter notre voix. Puis bien sûr tout un tas d'exercices parlés, chantés, de vocalises. C'est vraiment, je peux vous donner un exemple. J'avais un élève ce matin qui avait des problèmes de justesse qui étaient un peu bas, et c'est parce que c'était en gros trop tendu, pour dire ça vite fait. Sa mâchoire était tendue, sa langue était tendue. Et donc, on a travaillé beaucoup sur la détente pour lui permettre à la voix de résonner plus simplement et organiquement, naturellement, au-dessus de ses cordes vocales. Ça n'empêche pas la résonance. Et donc, quand c'est rétabli, la justesse est aussi rétablie.
Et enfin, Saskia, si on ne parvient toujours pas à chanter juste, une dernière leçon signée La Calas. Bon, elle n'avait pas de problème à chanter divinement juste, mais elle déclarait
« Certains disent que j'ai une voix magnifique, d'autres disent le contraire. C'est une question d'opinion. Tout ce que je peux dire est que ceux qui ne l'aiment pas n'ont qu'à ne pas m'écouter. »
Tout simplement.
Tout simplement. Merci beaucoup, Marie, pour ce reportage. On vous retrouve la semaine prochaine.
Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre.
France Musique, il est 8h23. La magnifique voix de Sabine Deviel, ici accompagnée par Alexandre Tarot au piano pour cette vocalise de Sergueï Rachmaninov. Il est 8h30. Et c'est l'heure d'accueillir Marc-Olivier Dupin pour sa chronique. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Et si nous parlions d'un chœur professionnel aujourd'hui?
Mais oui, l'un des plus extraordinaires, le chœur Accentus, dirigé par Laurence Equilbé.
Et alors dans son immense répertoire, qu'êtes-vous allé dénicher?
Alors au-delà des grands chefs-d'œuvre, Accentus a interprété, enregistré une pièce que j'adore, intitulée Immortal Bach.
Marc-Olivier, qu'est-ce qui vous fascine dans cette œuvre ?
Oh, plein de choses. Tout d'abord, cette pièce est écrite à partir d'un choral de Bach et tout ce qui est à voir avec Bach ne peut pas être mauvais.
Et pas désagréable de grand matin, on est bien d'accord.
En plus, cette écriture me plaît aussi beaucoup par l'utilisation du glissement progressif de la consonance vers la dissonance et vice-versa. C'est à la fois d'une simplicité, d'une virtuosité conceptuelle et d'écriture confondante, loin de tous les dogmatismes stylistiques. On est en dehors de toute chapelle, de tout univers fixé. C'est une sorte de chose mouvante qui est vraiment magnifique. Enfin, cet éloge de la lenteur met en jeu les voix, la polyphonie, les nappes sonores dans un trip totalement planant qui me fait penser à certaines merveilles de la pop des années 70.
Alors, quelle qualité spécifique demande l'interprétation justement de ce genre de texture sonore ?
Alors, ça demande une extraordinaire maîtrise du souffle et de la respiration pour obtenir une stabilité vocale parfaite. Donc, pas de chevrotement, d'accent intempestif ou de dérapage non contrôlé. Une grande linéarité. Et paradoxalement, chanter ou jouer piano demande beaucoup d'énergie à l'interprète, qu'on soit instrumentiste ou chanteur. Et puis, pour chanter cette musique, il faut aussi évidemment une bonne oreille pour se repérer dans ces trames tellement polyphoniques par moment et se retrouver au point d'orgue. Mais quittons la lenteur de cette musique sublime pour retrouver le chœur Accentus dans la rapidité et le forte avec le Dies Irae du Requiem de Mozart, Accentus et l'Isola Orchestra dirigée par Laurence Equilbé.
Merci beaucoup Marc-Olivier pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Le chœur Accentus, l'Insula Orchestra, Laurence Equilbet à la direction, Dieciré, extrait de ce fabuleux requiem de Mozart. Et puis, sachez que si vous aimez chanter, La Nuit Blanche, ce soir, vous permettra peut-être de vous lancer dans une carrière de chanteur lyrique. Rendez-vous ce soir, place Boieldieu, pour un grand karaoké sur des airs d'opéra. Ça se passe à l'Opéra Comique. Effectivement, avec l'Opéra Karaoké, vous aurez l'occasion de vous essayer au chant lyrique, guidé par un chef de chœur sur des airs bien connu du répertoire. Vous pouvez vous connecter sur le site de l'Opéra Comique pour avoir plus d'infos à propos de cette nuit blanche. Il est 8h35. La sonate en sol majeur, opus 2, numéro 12, d'Arcangelo Corelli, le consort, ici pour cet extrait de ce nouveau disque qui paraît chez Alpha. Il est 8h38 sur France Musique.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Bonjour Philippe Leclan.
Bonjour Saskia.
Bienvenue dans Musique Matin, vous êtes directeur artistique des rencontres avec les musiques anciennes en Pic Saint-Loup, 6e édition qui commencera le 11 octobre prochain. 4 dates de concert, nous allons en parler évidemment. En quoi la musique ancienne se marie-t-elle bien avec la région, Philippe Leclan ?
Écoutez, il y a une tradition, puisque nous sommes quand même la terre des troubadours, l'Occitanie. Plusieurs compositeurs ont séjourné, vécu ou sont nés dans notre belle région. Je pense à Moulinier, je pense à Bousignac, je pense à Boismortier qui a œuvré du côté de Perpignan également, et d'autres qui effectivement ont égrené l'histoire musicale et pour le répertoire de la musique ancienne, c'est effectivement un terreau intéressant.
6e édition des rencontres avec les musiques anciennes en Pic Saint-Loup. C'est un festival, ce sont des concerts, il y a de la musique évidemment, mais c'est aussi une promenade patrimoniale. Vous avez choisi de proposer des concerts dans différents lieux, Philippe Leclan.
Oui, en fait, ce rendez-vous est promu par une structure qui s'appelle les Muses en Dialogue, qui a vocation à mettre en parallèle le répertoire des musiques anciennes, effectivement, et le patrimoine bâti de qualité qui est assez fourni dans notre région. Il y a quelques temps, quelques années, la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup m'a demandé effectivement de mettre en valeur ce patrimoine bâti de qualité, que ce soit des églises romanes, effectivement sont nombreuses sur le territoire. Il y a également le château d'Assas.
Qu'on connaît bien, en tout cas que nos auditeurs connaissent certainement.
Voilà, et puis avec l'intégrale des sonates de Scarlatti qui diffusaient tous les midis. Donc effectivement, on a souhaité proposer une série de concerts, comme on le fait dans d'autres lieux, que ce soit la cathédrale de Maglone au mois de juin, ou il y a peu du côté des églises romanes du Roussillon à travers musique en Catalogne romane. C'est un peu notre ADN, mettre en parallèle le patrimoine bâti et puis la musique, et en l'occurrence les musiques anciennes.
Musique en Catalogne romaine qui s'est justement terminée dimanche dernier, heureusement pour nous, en ce mois d'octobre, il y a ce festival, ces rencontres avec les musiques anciennes en Pic-Saint-Loup. Quatre dates, je le disais, les 11, 12, 13 et 17 octobre. On va détailler la programmation de ce festival, mais tout d'abord je vous propose d'écouter l'ensemble Micrologus qui sera à l'affiche. Ensemble Micrologus dirigé par Patricia Bovi, musiciens qui seront à l'affiche des rencontres avec les musiques anciennes en Pic-Saint-Loup. Le directeur artistique de ce festival est notre invité ce matin, Philippe Leclan. Des musiciens qui vous sont fidèles depuis déjà quelques années.
Oui, c'est une longue histoire parce qu'avec Patricia Bovi, ça fait quoi, 30 ans qu'on travaille ensemble. C'est d'ailleurs un producteur France Musique qui me l'avait présenté il y a quelques années, évidemment Jacques Merlet, que vos auditeurs ont bien connu, qui pendant 30 ans était à la voix de la musique ancienne sur France Musique. Et tout de suite, Patricia s'est intéressée à nos églises, On y a d'ailleurs enregistré avec elle plusieurs disques. Je pense notamment à Maglone, et ce programme diffusé à l'instant a été enregistré à la cathédrale. Et toute une série de concerts ont effectivement... C'était une invitée régulière, que ce soit de Catalogne Romane, Maglone. Elle est venue très, très souvent et c'est pour nous une joie de l'accueillir. Et là, un peu plus que d'habitude, puisqu'elle sera pratiquement finalement en résidence à travers trois concerts durant une grande semaine. Elle prendra la suite de Pierre Antaille qui ouvrira le festival à Assas, évidemment, sur le clavecin historique. Et c'est pour nous une joie de l'accueillir, en relation d'ailleurs avec le Centre international de musique médiévale basé à Montpellier, puisqu'on a la chance d'avoir cette structure également avec laquelle on organisera pendant le festival effectivement aussi une conférence autour des troubadours. Tout à l'heure on parlait des troubadours, mais justement on aura un musicologue, Gérard Leveau, qui a beaucoup travaillé sur ce domaine, qui viendra présenter son ouvrage qui sort ce mois-ci. Et l'illustration musicale, effectivement, de tout ce répertoire médiéval, c'est Patricia et son ensemble Micrologus qui la donneront.
Alors, vous le disiez, hein, trois concerts pour ces musiciens, du moins pour cette musicienne. Deux concerts avec l'ensemble Micrologus, ce sera le 13 octobre à 17h en l'église romane Saint-Martin à Saint-Martin-de-Londres. Le jeudi 17 octobre à 20h30 en l'église romane de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-de-Cucul. Et puis, récital soliste, ça ce sera le 12 octobre, samedi 12 octobre à 17h. Patricia Bovy, harpiste et chanteuse, donc en l'église romane Notre-Dame à Péguérolles de Brège. Et puis, cette conférence dont vous nous parliez à l'instant, évidemment, Philippe Leclan, ça ce sera le 15 octobre à 17h30 à la médiathèque centrale Émisola à Montpellier. Conférence, lecture chantée par Gérard Leveau, entrée libre. N'hésitez pas à aller jeter un œil ou une oreille si vous êtes curieux de ces troubadours, effectivement. Et puis ce festival, ces rencontres avec les musiques anciennes en Pic-Saint-Loup, c'est l'occasion de mélanger musique, patrimoine, on le disait, mais aussi du vin.
Oui, on a la chance d'avoir sur ce territoire du Pic-Saint-Loup des vignobles de qualité. Et effectivement, je dirais que c'est pas non plus très original dans la mesure où d'autres vignobles importants, que ce soit le Bordelais est plus important, le Bordelais ou la Bourgogne, ont souvent allié musique, patrimoine et vin. Mais on a souhaité, d'autant plus que le territoire du Pic-Saint-Loup et le vignoble du Pic-Saint-Loup viennent se... voire décerner un label vignoble et découverte qui est un label important en matière de no-tourisme, et on a souhaité effectivement organiser une série de dégustations à la sortie des concerts où le public non seulement pourra découvrir un patrimoine de qualité dans ces petites églises romanes qui sont souvent fermées d'ailleurs et que le public ne connaît pas ou peu, mais également c'est une occasion de faire la promotion des vins du Grand Pic-Saint-Loup.
Un site pour réserver vos places pour ce festival. Musique ancienne en Pic-Saint-Loup, tout en attaché.com. Vous trouverez l'adresse sur la page de Musique Matin, sur le site francemusique.fr, bien sûr. Festival donc qui démarre le 11 octobre, qui se tiendra jusqu'au 17 octobre, qui démarrera avec un musicien qu'on aime beaucoup, Pierre Antaille, au château d'Assas. Malheureusement, le concert est déjà complet, donc ça, nos auditeurs ne pourront pas aller l'écouter, mais il y en a d'autres de ces musiciens à découvrir, évidemment. L'ensemble Micrologus, Patricia Bovy. Merci beaucoup, Philippe Leclan, d'être venu nous parler de ses rencontres avec les musiques anciennes en Pic-Saint-Loup. Et bon festival.
Merci.
À très bientôt.
La sonate en fa majeur de Domenico Scarlatti, interprétée ici par ce grand musicien Pierre Entaille, disque paru il y a peu chez Mirare. Il est 8h et presque 52 minutes.
Le reste trouvé sur le plateau.
Allons-y. Effet 203, top. Entrée du chef.
Et c'est l'heure de la chronique de Roselyne Bachelot. Bonjour Roselyne.
Et bonjour Saskia.
Nous ne pouvions pas, Roselyne, ne pas consacrer notre concert du soir sur France Musique à 20h ce soir, donc à l'immense Jesse Norman qui nous a quittés en ce début de semaine.
Et oui Saskia, un hommage indispensable. Tant la personnalité unique, le talent sublime de cette diva nous ont envoûtés et nous retrouverons ce soir toutes les facettes de son talent dans le concert avec plusieurs lives et surtout l'intégrale du seul opéra de Béla Bartók, Le Château de Barbe Bleue. Jesse Norman avait chanté cette œuvre en anglais dans les années 90 aux côtés de Samuel Ramey, mais les mélomanes n'oublieront jamais la version de concert qui a été donnée en 2006 au Châtelet, sous la direction de Pierre Boulez, s'il vous plaît, avec l'orchestre et les chœurs de l'Orchestre de Paris. La journaliste du Monde, Marie Audroux, à l'époque, elle ne manie pas volontiers le superlatif, avait parlé de magie pure. C'est une œuvre étrange que ce château de Barbe Bleue. Comme Pietro Mascagni qui présenta son fameux Cavalleria Rusticana à un concours, Bartók composa cette œuvre de 1909 à 1911 pour un concours destiné à promouvoir la musique hongroise, le prix Ferenc Erkel. Comme pour tous les opéras destinés à des concours, sont donc des œuvres courtes, en général jouées avec d'autres compositions par la suite. À l'Opéra de Paris, rappelez-vous, il avait été donné récemment avec la voix humaine. Devant le bide rencontré, non pas par le concours de l'Opéra de Paris, mais quand l'œuvre Le Château de Barbe Bleue est sortie, ça rencontre aucun succès, il le remanie, il le présente à un autre concours. J'espère que les nombreux auditeurs hongrois ne vont pas me chambrer. Le prix Rosa Volgil.
L'accent est superbe.
Très bien, hein. Et le mauvais sort de l'insuccès s'acharne sur Bartók. Les musiciens jugent la musique injouable. Le public ne comprend pas la profonde originalité de l'œuvre. C'est vrai qu'elle est composée dans un système pentatonique de gamme à 5 notes, très caractéristique de la musique populaire hongroise. Il ne faut pas oublier que Bartók ainsi que son ami Zoltán Kodály sont les ardents défenseurs de l'ethnomusicologie. Le librettiste Béla Balázs avait d'ailleurs proposé ce livret d'abord à Kodály qui l'avait refusé. Il faudra donc attendre un chef italien, Egisto Tango, et le 24 mai 1918 pour que l'unique opéra de Bartók soit créé à Budapest et 1950 pour qu'il soit créé en France. Une œuvre étrange donc, mais aussi maudite. Elle est stoppée par la censure hongroise, puisque le librettiste Béla Balázs, membre de l'éphémère République soviétique hongroise, est contraint à l'exil en 19 et elle ne sera plus jouée en Hongrie pendant de longues années. Jesse Norman a peut-être été la plus grande Judith, puisque l'héroïne de ce château de Barbe Bleue s'appelle Judith, la plus grande Judith de l'histoire lyrique. Elle est aux côtés du baryton Robert Fried dans ce que nous allons entendre. Il n'y a que deux rôles chantés, hein, plus un récitant, les précédentes femmes de Barbe Bleue étant condamnées au silence. Nous sommes à la fin de l'opéra. Judith a ouvert les portes de la salle de torture, de la salle d'armes, de la salle des trésors, du jardin secret, du grand domaine et le lac des larmes, et elle se prépare à ouvrir la 7e porte, là où elle va se perdre, comme nous allons nous perdre dans la voix envoûtante de l'immense Jesse Norman, qui reflète à l'acmé l'angoisse et l'agonie de celle qui va rejoindre ses compagnes vêtues de ses habits de ténèbres.
Thank you.
Un avant-goût de la soirée qui vous attend sur France Musique dès 20h, samedi soir à l'Opéra avec Judith Chen, Barbe Bleue avec l'immense Jesse Norman et Robert Fripp qu'on écoutait ici. Merci beaucoup, Roselyne Bachelot, pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr à l'envi. 8h57, bien c'est l'heure presque déjà de se quitter. Mmh. Un petit mot sur le concours d'aujourd'hui. Je vous proposais de gagner des places pour le festival aux Ormes Contemporains le week-end prochain, la Scala à Paris. Pour le concert du pianiste David Cadouche, qui aura lieu vendredi à 19h. Je vous demandais de deviner son métier. Pianiste, bien sûr. Les contacts, voilà, Roselyne, même Roselyne le savait. Les gagnants seront recontactés par email cette semaine, bien évidemment. Une poignée de secondes pour remercier l'équipe, évidemment. Marie-Ferdinand, Laurent Lefrançois, Audrey Guélil, Ludovic Auger, Guillaume Ledu et Victoria Asper. Et vous remerciez, vous, d'avoir choisi France Musique pour vous éveiller. Je vous souhaite une très belle journée.
À réécouter sur francemusique.fr.